Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Le mystique fait l'expérience de la connexion intime qui existe entre Dieu et tous les êtres, et ainsi il sent que Dieu est en toutes les choses. La phrase n'est pas de Denis Corpé, le monsieur instant de bonheur de Radio Présence, plus mystique qu'il n'y paraît, mais du pape François. Un extrait de Laudato Si, ce texte majeur, cette encyclique publiée en 2015, qui invite à redéfinir le progrès, à accepter une certaine décroissance, bref, à une profonde conversion. Un texte que le pape conclut en renvoyant rien moins qu'au Shabbat de l'éternité, manière de nous redire que tous nos actes ont un poids d'éternité. Lecture de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, dernière émission de cette l'une de nos grandes séries annuelles. Et ce matin, pour nous en parler, en plateau, Jean-Marc Moschetta, vous êtes docteur en théologie et professeur d'aérodynamique pardon, à Supaéro. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de revenir en cette fin d'émission pour conclure donc cette grande série. Vous étiez avec nous pour le commentaire du chapitre 2, qui est un chapitre très théologique. Je rappelle le titre de ce chapitre, c'était l'évangile de la création. Après, on va dire le constat de ce qui se passe dans notre maison, puisque c'était le titre du premier chapitre, le pape invitait à un regard profondément contemplatif et théologique sur la création. Alors avant de se lancer dans la fin de la lecture et le commentaire de la fin de ce texte, on s'est dit qu'il serait bon de se remettre en tête quelques-unes justement peut-être des grands traits de ce chapitre 2 qui sont à mon sens, ou en tout cas moi qui ai suivi toutes les émissions, à retenir. Une chose importante, c'est cette expression, en tout cas cette décision, on pourrait dire, du pape François, qui dans ce texte fait, c'est comme ça que je l'avais compris quand vous l'aviez expliqué, de la création en fait un troisième lieu après la vie sacramentelle, la relation à Dieu, la relation aux autres. La création est maintenant, pour le magistère, un lieu où l'on trouve Dieu, un lieu de contemplation. On marche sur trois pieds.
Oui, tout à fait. Il y a une grande tradition dans l'Église qui considère la création comme un livre. Et on voit que dans cette encyclique, le pape François souligne qu'il y a non seulement une dimension esthétique, hein, donc Dieu a écrit un beau livre, écrit-il au paragraphe 85, et même sensuel, puisqu'il dit même, il parle de tout est caresse de Dieu. Voilà, il y a quelque chose de vraiment palpable. Mais en même temps, la nature est un livre, hein, c'est-à-dire qu'il reprend la tradition introduite par saint Augustin d'un livre de la nature, d'un message délivré par la création.
Donc on peut dire que, on va dire, la vie chrétienne marche sur trois pieds. L'expression pour le coup est de moins. Mais si on fait abstraction de la nature, en fait, il nous manque une partie d'une manière de rejoindre Dieu et de se laisser rejoindre par Dieu.
Absolument. Il y a effectivement la prise au sérieux du fait qu'il y a le livre des Écritures, bien sûr, qui nous révèle, qui est le livre de la parole de Dieu. Et il y a un deuxième livre par lequel Dieu s'exprime, qui est le livre de la nature. Et je dirais que, comme le livre des Écritures, le livre de la nature appelle une interprétation. Il ne s'agit pas de le lire de manière, je dirais, naïve, mais il complète et il nous permet de voir aussi la marque de son auteur.
Alors, autre chose à dire et à redire, c'est que ce que l'on contemple aussi dans la création, c'est, on va dire, la continuation de l'action créatrice. C'est une expression qui est dans l'encyclique, donc dans ce chapitre 2 qu'on avait lu et commenté ensemble, enfin que vous aviez commenté. Et vous avez une expression pour ça, vous dites « nous n'en sommes qu'au début, expliquez-nous ».
Oui, j'aime bien dire que la création ne fait que commencer. Nous sommes contemporains de ce mouvement. On a toujours été attentif en lisant les récits de la création que Dieu ne crée pas un monde achevé. L'achèvement du monde est relégué, si j'ose dire, au septième jour, au Shabbat. Et donc nous avons affaire à un monde qui est simplement en cours, qui est perfectible, qui est incomplet et qui fait signe à notre coopération. Et c'est là que le rôle de l'homme est bien celui d'accompagner et de gérer cette création pour coopérer donc au projet de salut de Dieu.
Vous me disiez aussi en préparant l'émission, ce n'est pas, enfin Dieu n'a pas créé le monde et puis après, on va dire le monde est tombé et puis Dieu est venu le racheter par son Fils, comme on vient sauver quelque chose qui est déjà achevé ou qui était raté, c'est ça ?
Tout à fait. Parfois, on présente de manière un peu caricaturale les choses en disant voilà, Dieu a créé le monde, il a mis en place les conditions initial du mouvement des choses, du monde, de la matière, etc. Et puis ensuite, voyant que tout ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, ben, il y a le service après-vente à travers l'incarnation et la rédemption. Or, la tradition théologique chrétienne a toujours pensé que le Dieu qui libère et qui sauve, hein, c'est ce que dit le pape François au paragraphe 73, est le même que celui qui a créé le monde, et que ces deux modes de fonctionnement sont en réalité intimement liés, c'est le même mode d'agir qui est contenu dans la création du monde et la volonté de le sauver. Je crois avoir cité un théologien luthérien qui s'appelle Jürgen Moltmann, et qui dit cette phrase, je trouve qui résume très bien les choses: « Dieu ne serait pas le créateur de toute chose s'il ne voulait pas la rédemption de toute chose ». Voilà. Nous ne sommes pas que l'espèce humaine. Dieu ne serait pas le créateur de toutes les réalités s'il ne voulait pas en même temps les sauver toutes, ces réalités. Donc il y a bien là une unité de mouvement dans le geste créateur et l'œuvre de salut de Dieu.
Voilà, donc toute la création, je le redis avec mes mots, toute la création est prise en fait dans l'acte créateur qui est continu, continue et marche en fait vers le Shabbat d'éternité quelque part, selon l'expression du pape François à la
Tout
fin de ce
fait.
Texte.
Exactement.
Alors si l'on se plonge dans la fin de ce texte, c'est donc du paragraphe 233 au paragraphe 246, on est en fait donc dans la fin du sixième chapitre, éducation et spiritualité écologique, si je ne me trompe pas. On commence par le paragraphe 233. Dans ce paragraphe 233, alors il y a cette expression que je citais en introduction, il y a donc une mystique dans une feuille, le pape François qui parle aussi de la beauté des montagnes et qui reprend, je crois, le cantique des cantiques après laissant entendre que ce chant donc d'amour reprend des expressions, il contemple les montagnes et les vallons et il y voit la trace de son bien-aimé. Vous l'y insistez, vous, sur cette première phrase, tout simplement: l'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter longuement ?
En effet, elle est importante parce qu'elle permet de... D'ailleurs, la seconde phrase de ce paragraphe 233, il y a donc une mystique dans une feuille que vous avez citée, il y a un donc qui permet de renvoyer à cette première phrase. Donc elle explique la suite. Et quelle est-elle alors, cette phrase ? L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Voyons donc qu'il y a un double mouvement, c'est-à-dire que Dieu est à la fois contenant est contenu dans l'univers. Il est à la fois à l'intérieur des choses, agissant mystérieusement dans, je dirais, le végétal, le minéral, l'animal, l'humain, etc. Et en même temps, il est rempli par le monde. Alors ça peut paraître assez curieux. C'est une idée qui est présente chez saint Paul, avec cette idée qu'on retrouve au chapitre 15, la première épître aux Corinthiens, l'idée que par le Fils, Dieu sera tout en tous. Voilà. Cette idée qu'il va, quelque part, être habité la totalité de ce qu'il a créé, mais en même temps, il y a une sorte d'accomplissement du Fils, du Christ lui-même. Et ça, on le retrouve dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, la plénitude de celui qui est rempli. C'est un passif. Celui qui est rempli, on parle du Christ, tout en tout. Voilà. Donc il y a une sorte de mouvement, d'accomplissement mutuel. Le Dieu habitant, le Christ réalise son accomplissement en accomplissant le monde. Vous voyez ? Donc il y a un accomplissement mutuel des deux.
C'est-à-dire que la création est à l'intérieur même de Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre.
Il y a quelque part l'idée que la création est, est appelée à, dans son accomplissement, à compléter l'œuvre de salut de Dieu et par là même à compléter, je dirais, à réaliser, par exemple, l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 parle de réaliser la plénitude du Christ. Réaliser la plénitude du Christ. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se réalise dans le Christ. Ce n'est pas une sorte de chose qui vient comme ça surnuméraire par rapport. Il y a quelque part un programme d'accomplissement de Dieu lui-même à travers l'accomplissement de la création.
Alors, vous aviez une expression, le Christ microcosme. Il représente et assume chaque parcelle de l'univers. Et puis, on avait une autre, le Christ macrocosme. Il récapitule et soulève toute la création. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ?
Oui, c'est une dualité de la christologie un peu typique de la pensée franciscaine qui est reprise ici par le pape François. Alors, le Christ, l'idée du microcosme, c'est une idée apparue à la Renaissance, qui est assez connue par Micromega, Voltaire, donc est reprise aux Lumières, mais qui existe déjà à la Renaissance. C'est l'homme microcosme au sens qu'il y a des parcelles de toute la création à l'intérieur de la réalité humaine. On voit bien que nous, alors la théorie de l'évolution des espèces nous a montré que nous sommes, nous héritons, nous avons les signes, nous portons en nous-mêmes les signes de toutes ces réalités. Et lorsque nous confessons le Christ vrai homme, eh bien finalement, nous reconnaissons dans la manière dont une personne de la Trinité a assumé l'humanité, nous y percevons aussi la manière dont une personne de la Trinité a assumé l'ensemble de la création à travers l'homme, parce que l'homme a aussi cette réalité de microcosme. Donc le Christ est microcosme. Et il est macrocosme parce qu'il aborde, je dirais, la création par l'extérieur, comme embrassant la totalité de la création, englobant la totalité de la création. Et cette dualité a été bien illustrée par saint Hildegarde de Bingen, où on voit sur une très belle illustration.
Donc mystique du Moyen-Âge.
Cette mystique du XIIe siècle qui a représenté ses visions. Et on voit bien sur cette représentation l'homme au sens l'Adam, si vous voulez, l'homme primordial, qui dans lequel est englobé, il y a le globe terrestre, et autour de ce globe, on a encore le Christ macrocosmique qui vient opérer l'accomplissement définitif de toute la création.
Alors, il y a une expression au paragraphe 235 qui, je pense, prolonge votre propos, en tout cas, on est à l'origine. Selon l'expérience chrétienne, toute la créature de l'univers matériel trouve leur vrai sens dans le Verbe incarné parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel où il a introduit un germe de transformation divine. C'est-à-dire qu'en fait, à bien vous comprendre, j'essaye de résumer de manière probablement trop simple, Dieu a créé le monde, mais le Christ venant sur Terre, en fait, c'est comme s'il prenait le monde, comme si Dieu assumait par Jésus, par le Christ, encore plus profondément la création et la transformait de l'intérieur.
L'intérieur, et puis c'est vrai que dans cette belle phrase de germe de transformation divine, nous reconnaissons dans la résurrection, dans l'incarnation, nous reconnaissons le lieu d'une union intime de Dieu avec ce qu'il a créé, pas uniquement pour faire peuple, mais dans l'intention d'élever la création au rang même de sa divinité. Et donc il y a effectivement cette idée qu'il a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel. C'est quand même une grande particularité, je dirais même un des éléments remarquables du génie du christianisme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre religion équivalente où on va jusqu'à ce point de rencontre.
C'est l'objet de scandale d'ailleurs pour d'autres traditions religieuses.
Tout à fait, oui, oui. Donc nous on voit, et alors ce passage que vous venez de citer est quasiment mot pour mot une citation de l'épître aux Colossiens, de l'hymne aux Colossiens, où Dieu a voulu, le verset 19 au chapitre 1 de l'hymne aux Colossiens, Dieu a voulu que dans le Christ toute chose trouve son accomplissement total, toute chose, et pas tout homme, c'est toute chose. Donc on voit que
C'est... Donc aussi les plantes, les animaux.
Voilà,
les...
Alors d'une manière qui nous reste mystérieuse et ambiguë sans doute, mais il y a un mouvement qui dépasse très largement l'espérance dans le salut des âmes humaines.
Vous vouliez finir cette première partie en mettant un coup de zoom sur la finale de ce texte. Qu'est-ce que vous avez retenu dans la finale de ce texte?
La finale du... Donc au paragraphe...
Excusez-moi, je ne me souviens plus exactement de ce dont vous vouliez parler. Je vois que vous m'aviez mis, il y a une très belle finale, une prière magnifique qui résume l'encyclique.
Et
vous vouliez en parler à ce moment-là, il me semble.
Oui, tout à fait. C'est le paragraphe 243 qui effectivement contient plusieurs thèses et qui est une forme de prière finalement qui dit que l'ensemble de l'univers est concerné par le salut, hein, donc on retrouve ce thème puisque et chaque créature sera transformée.
Alors effectivement, la vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature transformée d'une manière lumineuse occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés.
Voilà.
Donc c'est-à-dire que même la création participe en fait à la libération des plus pauvres, on a l'impression. C'est...
Oui, il y a une forme de solidarité qui est manifestée dans ce résumé entre ce qui est petit, insignifiant dans la création et la pauvreté, je dirais, sociale de des hommes. Quoi. Il y a quelque chose... d'assez intéressant comme idée, c'est-à-dire que le mouvement ne va pas forcément toujours que de l'homme vers la nature, cette espèce d'attention, mais aussi nous recevons de la nature quelque chose, une richesse qui va au cœur du pauvre définitivement libéré. Et cette idée que chaque créature sera transformée. Je reviens sur ce mot-là, justement dans cette forme de prière du paragraphe 243, où on parle de la transformation. Chaque créature sera transformée est une allusion aussi au chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, où saint Paul dit « Tous nous serons transformés ». Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. C'est-à-dire que le programme chrétien, c'est un programme de transfiguration, de transformation et de configuration au Christ. C'est ça qui est manifesté dans le regard que le pape François porte sur la nature.
On va relire cet extrait donc, du paragraphe 243 avant de faire une première pause. « La vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature transformée d'une manière lumineuse occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. »
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Lecture donc et commentaire de ce texte que l'on a parcouru au long de cette année avec beaucoup d'invités. C'est l'occasion pour moi de les remercier vivement. Ce matin, nous sommes avec Jean-Marc Moschetta, docteur en théologie et professeur d'aérodynamique à SupAéro. Cette encyclique avec ce sous-titre sur la sauvegarde de la maison commune. Dans cette deuxième partie, vous vouliez insister, ou en tout cas souligner donc ce que le pape François dit de la vie sacramentelle et particulièrement de l'Eucharistie. On va se plonger directement dans le texte. Donc je rappelle que nous sommes dans le sixième chapitre, Éducation et spiritualité écologique, qui vient clore cette grande encyclique. Le pape François dit la chose suivante. Le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière. Pour vous, vous vouliez faire un coup de zoom et d'arrêt sur ce passage. C'est le paragraphe 236.
Oui, tout à fait. Encore une fois, le christianisme se caractérise par cet optimisme et ce lieu particulier. Le lieu de Dieu, c'est quand même sa création. C'est-à-dire qu'il est séparé de ce qu'il a créé, comme dans tous les monothéismes. Mais dans le christianisme, il y a l'idée qu'il est profondément présent. Il ne s'est pas absenté de ce qu'il a créé. Et cette idée de la présence de Dieu est ni plus ni moins que celle qui est soulignée dans tout sacrement. Le sacrement, c'est bien la reconnaissance d'une relation, d'une présence de Dieu, dont évidemment l'Eucharistie constitue, je dirais, le sommet par excellence. Donc nous avons comme une rencontre intime entre Dieu et des éléments matériels qui sont ceux que nous côtoyons. Et ça, c'est vraiment très très caractéristique. Donc le pape s'appuie sur cette définition presque du sacrement pour souligner que on voit bien que dans ce cas-là, la présence de Dieu à la création à travers, qui s'illustre magnifiquement à travers les sacrements, devient emblématique de la manière dont Dieu reste présent à toutes les réalités du créé. Voilà. Pas seulement, bien sûr, dans les sacrements, mais elle devient comme représentante de cette façon que Dieu a à être présent aux choses les plus insignifiantes.
Avant qu'on insiste davantage peut-être sur l'Eucharistie, du coup, me vient une question, c'est que si Dieu est présent, on va dire, en toutes choses, dans une feuille, dans la rosée, dans un chemin, dans le visage du pauvre, si la mystique essaie d'apprendre à voir que Dieu, je retrouve une autre expression, toutes ses excellences réunies sont Dieu même, bref, que Dieu est dans le monde créé, quelle différence y a-t-il avec la présence sacramentelle ? La présence sacramentelle, c'est quoi ? C'est une présence par excellence, on pourrait dire, ou c'est...
Oui, il y a différents modes de présence, on dira, de Dieu dans le monde. Mais effectivement, j'aime beaucoup la phrase que vous avez citée sur cette mystique dans une feuille. Je note d'ailleurs que dans ce passage particulier, une feuille, un chemin, la rosée et le visage du pauvre sont quand même quatre éléments qui font réfléchir, parce qu'on ne voit nulle part les animaux, par exemple. On est vraiment dans les formes les plus insignifiantes de la vie, un chemin, la rosée, voilà. Donc cela nous montre que, pour moi, que Dieu se tient auprès de l'insignifiance apparente de la vie. Il se tient auprès de ce qui est négligeable, de ce qui est invisible. Hein, on pense
de ce qui est petit, de ce qui est caché.
De ce qui est petit, de ce qui est caché. Cela aussi de ce qui est caché, petit dans le monde des humains, c'est-à-dire les personnes qui sont là dans la rue et qui souffrent de pas être simplement regardées. Et cette idée de rapprocher l'insignifiance de la vie dans la nature et l'insignifiance de la vie dans le monde des humains me paraît très emblématique de la lettre encyclique Laudato Si, parce que nous avons effectivement comme une correspondance, remarquer le visage du pauvre procède finalement de la même attitude que remarquer les petites choses dans la nature.
Dans ce passage sur l'Eucharistie, donc si on continue, dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée, c'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. C'est le paragraphe donc 236. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Et il reprend là donc une expression déjà utilisée par certains de ses prédécesseurs. Comment vous pouvez expliquer cette expression, un acte d'amour cosmique ?
Oui, alors il y a une très belle catéchèse de Jean-Paul II qui finalement, je dirais, s'inspire déjà de ce que Teilhard de Chardin écrivait dans par exemple, la Messe sur le monde ou dans le Christique. Mais, et Jean-Paul II, dans sa catéchèse qui remonte à 2003, est cité explicitement dans ce paragraphe, et dit « Même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. » C'est-à-dire qu'il y a une sorte de récapitulation de l'ensemble des offrandes, d'ailleurs c'est manifesté dans la liturgie, de l'ensemble des offrandes présentées par les croyants au Seigneur, et en même temps, il y a comme un incendie, dira Teilhard de Chardin, qui procède de la transsubstantiation. Alors je voudrais citer ce petit passage du Christique, qui est un écrit à la fin de la vie de Teilhard, qui résume...
Teilhard de Chardin, grand théologien.
Teilhard de Chardin, absolument. Et qui dira à ce sujet, il dit « Voici qu'au regard émerveillé du croyant, c'est le mystère eucharistique lui-même qui se prolonge à l'infini dans une véritable transsubstantiation universelle. » Transsubstantiation universelle, où ce n'est plus seulement sur le pain et le vin sacrificiel, mais bien sur la totalité des joies et des peines engendrées dans ses progrès par la convergence du monde, que tombent les paroles de la création. Donc il y a une vision...
Donc ça veut dire qu'en fait, pendant la messe, il y a symboliquement du pain et du vin qui sont apportés, donc les offrandes des fidèles, mais en fait on pourrait dire que quelque part c'est non seulement oui. C'est le monde, mais c'est aussi toute la création en fait qui est rendue présente,
toute
c'est
la
ça
création, et comme le dit par exemple la prière eucharistique numéro 30 là, dans le missel romain de 1978, dans l'univers toute chose te célèbre, toute chose, pas tous les hommes, c'est toute chose. Donc il y a à la fois un mouvement de présentation des offrandes du monde dans les peines et les progrès du monde, donc ce que dit Teilhard, et en même temps, le début d'un incendie, l'image de l'incendie sera aussi une image teilhardienne, qui diffuse depuis, je dirais, l'autel dans la totalité du créé. Donc il y a quelque chose d'éminemment cosmique, d'une dimension éminemment cosmique dans l'Eucharistie, et c'est pourquoi le pape parle d'un acte d'amour cosmique, et pas simplement qui concerne les quelques personnes qui sont rassemblées autour de cet autel.
Mais ce qui veut dire que l'Eucharistie transforme non seulement les personnes présentes, mais on peut imaginer que comme par réplique pour un séisme, en fait, ça a un effet sur le monde végétal, animal, etc.
Il y a absolument un effet de ruissellement du sacrement eucharistique dans la totalité du créé. Et c'est à ça d'ailleurs qu'on voit le prêtre lorsqu'il conclut la célébration, il nous envoie faire diffuser ce que nous avons reçu et qui n'est pas simplement censé se rester confiné à l'intérieur de l'Église.
Alors il y a une autre expression toujours au paragraphe 236, si on continue. « L'Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création, le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration. » Dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. Je voulais que vous reveniez sur cette expression, la création est tendue. Il y a un autre passage, il me semble, à peu près semblable, où revient l'idée que tout le monde créé, en fait, est comme en marche. Est-ce que vous pouvez expliciter
oui,
cela, s'il vous plaît ?
Tout le monde créé, puis il y a, je dirais, cette idée d'un destin de la création qu'on avait déjà entendu et qui s'explique peut-être, je fais un petit retour en arrière par rapport au chapitre 2, qui s'explique par cette belle idée au paragraphe 99 et 100, c'est-à-dire tout à fait la fin du chapitre 2, effectivement, le destin de la création, l'horizon de toute la création, passe par le mystère du Christ. Hein, c'est, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est ouvert par le Créateur, par la création et par la nouvelle création qu'est la résurrection du Christ, et qui, ce chemin, fait que désormais, les créatures ne sont plus des choses, je dirais, purement matérielles, des objets, des éléments de décor, mais sont partie prenante de cette grande pérégrination vers l'accomplissement dans le Christ. Et dans cette grande pérégrination, l'homme joue un rôle particulier, puisque on vient de le lire dans la prière du paragraphe 243, il est amené à accompagner toutes les créatures vers leur accomplissement. C'est dit aussi au paragraphe 83 dans le chapitre 2, toutes les créatures avancent avec nous et par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. On voit bien le rôle de l'humanité qui est important, qui est celui d'accompagner et de conduire, c'est-à-dire c'est un geste sacerdotal qui nous est demandé. L'écologie intégrale, c'est d'être prêtre finalement, c'est d'amener l'ensemble du créé au Christ, au Seigneur.
Il y a un autre passage, c'est le paragraphe 244. « Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce que si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l'a créé. » J'ai trouvé que c'était très très beau ça. « Il cherche celui qui l'a créé. Il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son créateur. » Comme si, en fait, tout le monde créé cherchait, quelque part, le Christ encore.
Effectivement, il y a, comme dans la création des réalités... des réalités de ce monde, et il y a comme le dépôt, en même temps que la création, il y a aussi le dépôt d'une sorte de tension, de projet, de s'accomplir en Dieu. C'est-à-dire que Dieu a déposé dans le cœur de chaque homme, mais aussi dans toutes les réalités, le projet d'un accomplissement, de sortir de la routine, de la fatalité, d'une vie qui se recycle, qui est comme... un peu dans la...
Tournant sur elle-même.
Qui tourne un peu sur elle-même. Là, donc toute réalité a est porteuse de cette tension et comme attirée depuis le futur par le Christ, par le Dieu créateur. Voilà, on est attiré depuis l'avenir par le Christ créateur. C'est cet avenir qui motive et qui mobilise le présent.
Il y a des belles expressions. Nous n'en sommes qu'au début et nous sommes attirés par le futur. C'est beau. J'aimerais qu'on finisse donc cette partie en parlant de Marie. En tout cas, c'est vous qui vouliez finir cette partie en parlant de Marie. Il y a donc un passage, la reine de toute la création, avant un court passage sur Saint Joseph. Et à propos de ce qui est dit de Marie, vous vouliez vous arrêter sur un passage dans son corps glorifié avec le Christ ressuscité. Une partie de la création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. Vous vouliez vous arrêter sur le mystère de l'Assomption de Marie.
Oui, parce que je trouve très opportun que ce paragraphe et nous situe le mystère de l'Assomption en lien avec justement la promesse faite à la création d'être intégrée au mystère du salut.
Alors, il faut peut-être juste rappeler en deux mots l'Assomption, oui. C'est donc, la foi que Marie est montée au ciel.
Absolument.
Mais avec son corps.
En son corps glorifié.
C'est la première à mourir, en fait, avec son
corps. C'est ça, donc au terme de sa vie. Donc, on voit que la question de la mort au sens du dépérissement, de la corruption du corps n'a pas été mentionnée. Donc, on a cette idée très typiquement exprimée dans l'Épître aux Corinthiens, de nouveau. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cette fin de vie qui, avant d'avoir connu la corruption, est élevé corps et âme dans la plénitude de la résurrection, exprime déjà cette idée que ce monde matériel doit être aussi transfiguré pour devenir nouvelle création. Dans la théologie chrétienne de la création, la nouvelle création n'est pas recréée ex nihilo, elle est créée ex vetere, c'est-à-dire à partir de l'ancien. Dieu fait du nouveau à partir de l'ancien, et c'est ce qu'il va faire de Marie. C'est-à-dire, à partir du oui de Marie, à partir de son corps glorifiée, la voilà, à partir de son corps humain, la voilà glorifiée et élevée dans la plénitude de la résurrection du Christ.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la matière en fait en Dieu quelque part? Parce que si Marie monte dans les réalités célestes avec son corps,
quand
on parle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, on se dit
non,
aussi.
Je ne dirais pas de la matière, je dirais plutôt qu'il y a une matière, il y a une transfiguration de la matière. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs dans les récits d'apparition après Pâques, on voit bien que le Christ ressuscité rejoint le monde matériel, apparaît, mange avec les apôtres, etc. Mais en même temps, il échappe aux déterminations de la matière. Il y a donc quelque chose comme une transformation de cette matière. Hein. Transformé, transfiguré, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Donc je ne dirais pas
c'est-à-dire
que la matière...
Il est au-dessus ou il est en dehors de la matière.
Elle
est prise
soulevée et transformée en même temps. Voilà. Mais elle est prise, voilà. Elle est prise dans le cœur de Dieu, mais ce n'est pas la matière au sens de la matière, les réalités matérielles au sens physique qu'on dirait, qu'on pourrait situer en Dieu, bien sûr.
On va faire une deuxième pause musicale et je citerai juste ce passage donc du paragraphe 244 à nouveau. Ensemble avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce que si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l'a créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son créateur.
Gran regalo.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Laudato Si, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, dernière émission de l'une de nos grandes séries annuelles, donc sur cette lettre encyclique du pape François, la seule qu'il ait publiée depuis qu'il a été élu au siège de Pierre, avec ce matin Jean-Marc Moschetta, docteur en théologie et professeur d'aérodynamique à Supaéro. Cette dernière partie, vous vouliez la consacrer à la lecture et commentaire des paragraphes 238, 239 et 240, où le pape François parle de la Trinité. Alors, je vais lire votre expression et je vais vous laisser la développer. Pour vous, il y a une théologie écologique de la Trinité. Expliquez-nous ce qu'est cette théologie écologique de la Trinité.
Oui, alors, bon, cette expression d'ailleurs n'est pas de moi, elle est de Mgr Stinger, j'ai trouvé ça lumineux. Pour moi...
Évêque responsable de Pax Christi en France.
Absolument, ça, voilà, président. Et cette idée de la doctrine, enfin de la théologie écologique de la Trinité consiste à remarquer que à l'intérieur de la Trinité, il y a des relations subsistantes. C'est-à-dire que le Dieu des chrétiens est un Dieu relationnel. Tout est lié en Dieu. Les personnes sont profondément liées en Dieu. Et cette liaison est parfois exprimée sous forme d'une danse. On parle de péricorèse, on parle voilà, de cette danse des personnes qui se lient, qui s'aiment. Et ce mouvement d'amour est constitutif de la réalité de ce qu'est Dieu. Et ce qui est intéressant dans ce paragraphe 238 et 239 et 240, c'est que il y a une analogie entre la structure trinitaire de Dieu et le caractère relationnel de la nature, de ce que Dieu a créé. Et cela est basé sur l'idée proposée par Saint Bonaventure. Il dit que la création porte en elle une structure trinitaire et il recherchait dans la création tout ce qui pouvait lui évoquer la Trinité.
Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Paragraphe 238, c'est pourquoi lorsque nous contemplons avec admiration l'univers dans sa grandeur et sa beauté, nous devons louer la Trinité tout entière. En quoi on peut voir quelque chose de trinitaire dans la nature?
Voilà, alors on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a dans la prise de conscience que tout est lié, c'est-à-dire que les réalités que nous voyons sont éminemment relationnelles, non seulement dans l'environnement, mais aussi dans les réalités. On a parlé d'écologie humaine, vous savez, cette expression assez mystérieuse dont le pape s'est servi pour transformer en écologie intégrale. Et l'écologie humaine, c'est de remarquer précisément que nous sommes aussi des êtres relationnels, c'est-à-dire ceux dont notre identité, elle est basée sur le fait que, en fait, nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes en relation avec telle personne, parce que nous avons tel cercle d'amis, parce que nous avons telle famille, etc. Et cela dit notre identité. Et il y a donc une correspondance entre la réalité de ce que nous sommes et la réalité de ce que Dieu est. Et cette relation, ce que dit...
Dans cette relation est intégrée la création, pas seulement les relations interpersonnelles.
C'est... Voilà. Mais je cite le pape François, au paragraphe 240, il dit « Les personnes divines sont des relations subsistantes, ce que nous venons de rappeler, et le monde, créé selon le modèle divin, est un tissu de relations. » Donc il y a là quelque chose qui est plus qu'une analogie. C'est une toute réalité, il dit également au paragraphe 239, toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire parce que la création est l'œuvre de la Trinité tout entière.
Alors, il y a un autre passage, Saint Bonaventure en est arrivé à affirmer qu'avant le péché, l'être humain pouvait découvrir comment chaque créature atteste que Dieu est trine. Alors, vous n'avez pas vécu avant le péché, mais est-ce que vous pouvez prendre un exemple? Est-ce que soit un exemple personnel, soit une expérience que chacun peut faire, où à un moment, en contemplant la création, on peut entrevoir que Dieu est trine, comme il est écrit?
Il y a, je dirais, un exemple personnel. Je dirais que la contemplation de la création pose trois questions immédiatement. La première, c'est d'où vient ce que ce qui est. Donc ça, c'est la question de la relation avec la figure du Père, c'est-à-dire le Père est la personne de la Trinité qui dit l'origine et qui est le lieu de la création vis-à-vis du Père, c'est l'origine. Il est la personne de l'origine. Dans la deuxième question qui se pose par rapport à la contemplation de la création, c'est comment ce qui est maintenu dans l'existence et transformé vers la divinisation, à la théosis, comme diront les théogiens orthodoxes, ça c'est par le Fils. Et cette œuvre du Fils qui vient s'unir à la création pour la soulever. Et puis il y a l'œuvre de l'Esprit qui est l'œuvre du dynamisme, le dynamisme divin de Dieu et qui en dit l'horizon. Et donc il y a comme...
Quelle est la troisième question pour l'Esprit-Saint?
L'incomplétude du monde, l'inachèvement évident du monde, l'existence du péché, de la violence, de la souffrance dans le monde, fait signe à son achèvement. Et cet achèvement, il est reconnu comme l'œuvre de l'Esprit-Saint. C'est lui, à travers les sacrements, mais aussi à travers la récapitulation, finale, c'est lui qui va achever toute chose. Donc on a quelque part, je pense, quelque chose d'assez clair et d'assez clairement trinitaire dans les trois chapitres traditionnels de la théologie de la création, que sont la création comme problème des origines, la création comme problème de l'existence et de ce qu'on appelle autrefois la providence, donc le gouvernement du monde, et puis la création comme accomplissement dans ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières du monde.
Est-ce que vous pouvez insister un tout petit peu plus? Vous l'avez évoqué, mais donc vous parlez de l'écologie intégrale, l'écologie humaine, le pape François en parle, je crois même qu'il y a un chapitre qui lui est consacré. Oui, écologie intégrale, c'est le quatrième chapitre de cette encyclique. Cette écologie intégrale qui est fondée donc sur une vision trinitaire. Si vous deviez juste finir de préciser votre pensée, au paragraphe donc 240, vous l'avez cité, le pape François rappelle qu'en fait on est pris, alors je le dis avec mes mots parce que je ne retrouve pas le passage, mais si cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement. Bref, que nous sommes pris en fait dans une multitude de tissus relationnels, interpersonnels, mais aussi du monde créé. Donc avoir en tête que l'écologie intégrale et l'écologie humaine a un fondement trinitaire, c'est-à-dire un fondement relationnel. C'est quelque chose qu'il faut bien marquer.
Et je trouve que c'est quelque chose de très original, disons, dans l'affirmation. C'est-à-dire qu'on pourrait le résumer par un slogan. On pourrait dire « tout est lié ». Ça, c'est le slogan emblématique de la lettre en Sibylle. « Tout est lié parce que tout est lié en Dieu ». Et pas seulement parce que tout est lié à Dieu. Hein, on avait un peu cette idée qu'on était comme une sorte de tissu un petit peu convergent. Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes enfants d'un même père. Oui, mais nous sommes aussi profondément frères et sœurs parce que notre relation dit ce que nous sommes, de même qu'elle dit ce qu'est Dieu. Donc il y a une sorte d'horizontalité.
Continuité
qui est réintroduite. Tout est lié parce que tout est lié en Dieu. Et c'est fondamental comme position, c'est très fort comme pensée. C'est-à-dire que là, il fonde, il légitime la vision écologique du monde, qui est en fait la vision, globalisante, relationnelle du monde. Il la légitime sur une base théologique qui est, et c'est normal, parce que la création est l'œuvre de la Trinité, qui elle-même est un lieu de relation subsistante. Donc, il y a cette doctrine écologique de la Trinité qui fait écho à une vision écologique de la nature et de l'écologie humaine. Vous voyez, cette écologie aussi environnementale et humaine.
Pour finir, on va à nouveau s'arrêter sur le paragraphe 243. L'intitulé, c'est donc le tout dernier sous-chapitre de ce livre, de cette lettre encyclique avec ce très beau titre « Au-delà du soleil ». À la fin, c'est presque poétique, à la fin nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le Shabbat de l'éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Et ça rappelle évidemment cette autre expression du catéchisme de l'Église catholique. Un jour, Dieu créera les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Pourquoi vouliez à nouveau vous arrêter là-dessus et peut-être préciser une chose pour faire écho au fait que Dieu passe par ce qui est petit et faible.
Oui, il y a dans la... Parce que je pense qu'il faut compléter, très brièvement, il faut compléter cette idée d'un Christ qui récapitule. Hein, on a parlé de Christ macrocosmique, ça a l'air quelque chose d'assez effrayant. Mais en réalité, le Christ nous rejoint dans la pauvreté, dans la position de l'innocent, dans le condamné. Il nous rejoint sous la figure du serviteur, sous la figure de ce que l'Épître aux Corinthiens, au premier chapitre, appelle « ce qu'il y a de faible dans le monde ». Et on est quand même frappé par le... Vous voyez, aujourd'hui, on voit comment ce qu'il y a de faible dans le monde, ce sont à la fois la figure du pauvre, mais c'est aussi la figure, encore une fois, de ce qu'il y a d'insignifiant. Et on voit bien dans l'exemple que vous donniez de la thérapie à travers les animaux, des personnes qui ont subi des souffrances très, très grandes dans leur vie, comment ils peuvent retrouver à travers le contact avec le soin des animaux, ils peuvent soigner leur propre personne. Et c'est dans ce sens qu'il y a...
Ils ne sont pas là comme ces animaux ne sont pas là que comme des pansements aussi. Ils ont été voulus pour eux-mêmes et Dieu passe par eux.
Et en même temps, cette pauvreté enrichit une autre pauvreté, je dirais. C'est-à-dire chaque créature aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. C'est une très très belle image de ce qu'on peut déjà aujourd'hui expérimenter à travers ceux qui remarque que effectivement les pauvretés, il y a une sorte de solidarité dans la pauvreté qui est redite dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Ce que vous avez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait, c'est à moi non plus, vous ne l'avez pas fait.
Et donc on pourrait l'appliquer aussi à la création pour finir?
Absolument. Et je pense qu'il y a là une
correspondance. Ce que vous n'avez pas fait aux abeilles ou à la biodiversité, on pourrait
tout
dire ça.
Tout à fait. Il y a une forme de mystique dans une feuille, dit le pape François, et toute chose, toute proportion gardée, il y a effectivement une forme de présence de Dieu et il y a des clins d'œil de Dieu à travers les choses insignifiantes de la nature, comme il y a une véritable présence du Christ dans la pauvreté humaine.
Une présence et une responsabilité, évidemment. Voilà comment le pape François finit cette encyclique, on va lui laisser la parole. Il ne nous abandonne pas, il parle évidemment de Dieu, du Christ, il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Et le pape François conclut « Loué soit-il, Laudato si », puisque c'est le titre de cette encyclique, exclamation reprise de Saint François d'Assise. Merci beaucoup Jean-Marc Mosqueta et merci à tous les invités de cette émission et de cette longue série Laudato si.
Merci à vous.
Voilà, un grand merci et merci aux éditions Salvator qui nous ont fourni cette lettre encyclique. Lettre encyclique que vous pouvez gagner tout au long de cette semaine à lire et à relire à l'occasion de cet été et surtout après à vivre. Cette émission a été réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.